France Musique. Bonjour Christophe.
Bonjour Gabrielle.
Alors aujourd'hui, à l'odeur de pipe qui règne dans le studio, j'en déduis que vous allez nous parler de Sherlock Holmes.
Absolument Gabrielle. D'ailleurs, j'ai trouvé un passage dans Le Chien des Baskerville qui nous va bien à tous les deux. Ah. Je voulais vous rendre hommage avec cette lecture. C'est Sherlock Holmes qui s'adresse à John Watson. Vous n'êtes peut-être pas une lumière, mais vous êtes un conducteur de lumière.
Ça commence bien.
Certains personnages dépourvus de génie personnel sont quelquefois doués du pouvoir de le stimuler. Mon cher ami, je vous dois beaucoup. Londres, 1887. Un jeune médecin de 30 ans livre à un magazine londonien le manuscrit d'une étude en rouge et donne naissance à l'un des plus grands détectives de tous les temps et à l'un des violonistes les plus célèbres du monde. Quand Arthur Conan Doyle crée le personnage de Sherlock Holmes, il met au monde un personnage hors du commun qui va se mêler à la vie des londoniens de la plus élégante salle de concert au trottoir le plus obscur. Dans ces 10 minutes que vous daignez m'accorder, Gabriel, je vais essayer de faire le tour de la musique dans les romans et nouvelles de Sherlock Holmes. Déjà, oui, Sherlock Holmes est violoniste. Est-ce qu'un colocataire jouant du violon vous gênerait ?
Ça dépend du violoniste. En fait, un violon bien joué est un cadeau des dieux.
J'ai sorti mon intégrale des Sherlock Holmes et j'ai compté sur un peu moins de 1000 pages. Il joue une dizaine de fois, souvent pour ne rien jouer, pour ainsi dire, juste gratter des accords pendant qu'il réfléchit. Il va à au moins 5 concerts, Wagner à Covent Garden, Pablo de Sarasate et Chopin au St. James Hall. Il va voir le ténor Jean de Resquet dans Les Huguenots et assiste au récital d'une mystérieuse Carina au Royal Albert Hall. Il passe une soirée à raconter à Watson anecdote sur anecdote sur Paganini. Il passe une matinée et un déjeuner à parler des différences entre un Stradivarius et un Amati. Et écrit en une journée une monographie sur les motets polyphoniques de Roland de Lassus. Enfin, il déjoue les plans d'un meurtrier en passant un cylindre de la Barcarolle tiré des contes d'Hoffmann. Allez, commençons.
J'ai déjà fait allusion à son talent de violoniste. Talent remarquable, mais excentrique comme tous ses autres talents. Qu'il pût jouer des morceaux, même des morceaux compliqués, je le savais, car sur ma prière, il m'avait fait entendre des leaders de Mendelssohn et quelques autres chefs-d'œuvre que j'aimais. Mais livré à lui-même, il faisait rarement de la musique. Affalé dans son fauteuil le soir, il fermait les yeux et produisait des sons avec son violon posé sur ses genoux. Quelquefois, les accords étaient sonores et mélancoliques, et d'autres fois, ils étaient fantasques et joyeux. Clairement, ces accords étaient le reflet des pensées qui l'habitaient.
Pour l'extrait suivant, tiré de la pierre de Mazarin, je suis assez fier, j'ai mené ma petite enquête. En présence de malfaiteurs, Sherlock Holmes montre de l'impatience et dit en gros « Vous savez quoi, le temps que vous vous décidiez, je vais aller jouer la Barcarolle des contes d'Hoffmann sur mon violon. »
Comme ça quoi.
Ouais, on est un peu tous comme ça d'ailleurs. Il s'enferme dans sa chambre, mais au lieu de jouer lui-même, il passe un enregistrement pour pouvoir être libre de ses mouvements et confondre les bandits. Et c'est là où je suis content, c'est que la nouvelle de Sherlock Holmes date de 1921. Et j'ai trouvé un enregistrement de cette barcarolle dans une version pour violon, donc la même choisie par Sherlock Holmes, de 1917. C'est en gros celle entendue dans la nouvelle. Et j'ai mené une autre enquête, Gabriel.
Mais dis donc, Christophe,
je suis très inspiré.
J'ai vu qu'il y avait tous les livres de Sherlock Holmes là sur la table.
Oui, voilà. Je suis un peu Sherlock Holmes moi-même, mine de rien. Nous sommes dans une étude en rouge.
Dis non, et allons écouter Norman Neruda. Ses attaques et ses coups d'archet sont sublimes. Quelle est donc cette pièce de Chopin qu'elle joue magnifiquement bien ? Tralala, lira, lira les.
Eh oui, quelle est cette pièce ? Watson parle du concert comme étant le 4 mars, sans préciser l'année. J'ai regardé dans les archives de la violoniste Norman Neruda et j'ai comparé avec les archives de plusieurs salles de concert de Londres. Il s'agit vraisemblablement d'un concert donné le 5 mars 1881 au St. James Hall, sa dernière apparition londonienne de la saison. Sherlock Holmes n'allait pas louper ce concert. Quant au Chopin en question, il n'est pas au programme, mais Holmes dit
« Tra-la-la, lira, lira les ».
Tra-la-la, lira, lira les. En comparant avec la façon dont Pauline Viardot, cantatrice et amie de Chopin, mettait des syllabes sur les mazurkas de Chopin, j'ai vu que tra est un code pour une note enlevée avant le premier temps et que lira, avec son i court, suppose un rythme plus rapide. Ça donne tra-la-la-la, lira-lira-lé. Lira-lira-lé suggère un mouvement à deux temps. J'ai rouvert mes partitions de Chopin et j'ai trouvé un nocturne qui correspond parfaitement. Le nocturne numéro 15, opus 55, numéro 1. Tra-la-la-la, lira-lira-lé. Écoutons ça. Jamais 203, Gabriel, j'ai mené une autre petite enquête.
Toujours plus.
Ben oui, j'ai toujours trouvé étrange que Sherlock Holmes ait pu obtenir son Stradivarius aussi facilement.
Nous avons eu un dîner fort plaisant, pendant lequel Holmes ne pouvait pas s'arrêter de parler de violon, racontant avec enthousiasme comment il a acheté son Stradivarius, qui normalement valait au moins 500 guinées chez un marchand juif de Tottenham Court Road pour 55 shillings.
Connaissant la réputation des Stradivarius, je ne pense pas qu'il ait pu l'acheter comme ça à si bas prix. À mon avis, Sherlock Holmes ment pour couvrir la vraie façon dont il a obtenu son Stradivarius. Et j'en suis venu à la conclusion que la vraie violoniste Wilma Norman Neruda, celle du Chopin de tout à l'heure, lui a légué le sien pour un service de détective rendu discrètement. Et là, alors là, est-ce que vous êtes prête, Gabrielle ?
Absolument, allez-y Christophe.
J'ai un enregistrement du Stradivarius de Wilma Norman Neruda, celle entendue par Sherlock Holmes, la violoniste star de la deuxième partie du 19e siècle en Angleterre. Son Stradivarius Ernst de 1709. Nous allons donc écouter ce qui est peut-être le son du violon de Sherlock Holmes. Et au cinéma, comme nous pouvons l'entendre avec la musique de Miklos Rosa pour La vie privée de Sherlock Holmes, le film de Billy Wilder en 1970, Maître du violon crée tout de suite l'ambiance feutrée, intime et violonistique propice à la déduction. Par contre, ce que j'aime bien dans l'adaptation de Sherlock Holmes pour la BBC, située dans l'Angleterre d'aujourd'hui avec Benedict Cumberbatch, c'est qu'ils ont fait aussi évoluer la musique. Du violon, on passe au tympanon, sonorité d'Europe de l'Est qui tout de suite sort Sherlock Holmes de Baker Street. Quand on entend le tympanon dans la musique de Sherlock, on sait que l'intrigue est beaucoup plus internationale et complexe, avec en même temps ce côté atemporel de la musique folklorique. Vous vous souvenez, j'avais parlé de la monographie de Sherlock Holmes sur les motets polyphoniques de Roland de Lassus.
Une des caractéristiques principales de Sherlock Holmes était son pouvoir d'ordonner à son cerveau de se déconnecter de toute pensée quand il estimait qu'il ne pouvait pas réfléchir plus. Je me souviens que ce jour-là, il s'est consacré à sa monographie sur les motets polyphoniques de Roland de Lassus.
Thank you.
Merci Christophe Dillis. À la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Merci, vous aussi. Nous pouvons retrouver votre chronique Tendez l'oreille sur le site francemusique.fr, bien sûr.
À réécouter sur francemusique.fr.